Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, livre des Nombres, chapitre 21, verset 4. Et ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour faire le tour du pays d'Édom. Et le cœur du peuple se découragea en chemin. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants. Et il mordait le peuple. Et de ceux d'Israël, il mourut un grand peuple. Et le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera vivra. » Et Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Et il arrivait que lorsque un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Chapitre 22, verset 1er. Et les fils d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain de Jéricho. Et Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab eut une fort grande peur du peuple, car il était nombreux. Et Moab fut dans l'effroi à cause des fils d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, « Maintenant, cette multitude broutera tout ce qui est autour de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. » Or Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab en ce temps-là. Et il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, qui est sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, pour l'appeler, disant
« Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Voici, il couvre le dessus du pays et il habite vis-à-vis de moi. Et maintenant, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort que moi. Peut-être pourrais-je le frapper et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Et les anciens de Moab et les anciens de Madian s'en allèrent, ayant dans leurs mains le salaire de la divination. Et ils vinrent à Balaam et lui dirent les paroles de Balak. Et il leur dit, « Passez ici la nuit, je vous rapporterai la parole selon que l'Éternel m'aura parlé. » Et les seigneurs de Moab demeurèrent avec Balaam, et ses hommes, et, Et Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Et Balaam dit à Dieu, « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé vers moi, voici un peuple est sorti d'Égypte, il court le dessus du pays, viens maintenant, maudis-le-moi, peut-être pourrai-je combattre contre lui et le chasserai-je. » Et Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. » Et Balaam se leva le matin et dit au seigneur de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les seigneurs de Moab se levèrent et s'en allèrent vers Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Et Balak envoya encore des seigneurs plus nombreux, plus considérables que ceux-là, et ils vinrent à Balaam et lui dirent, « Ainsi a dit Balaam, fils de Tsippor, je te prie, ne te laisse pas empêcher de venir vers moi, car je te comblerai d'honneur, et tout ce que tu me diras, je le ferai. Viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Et Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balaam me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser le commandement de l'Éternel, mon Dieu, pour faire une chose petite ou grande. Et maintenant, je vous prie, demeurez ici, vous aussi, cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel aura de plus à me dire. » Et Dieu vint la nuit à Balaam et lui dit, « Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, seulement la parole que je te dirai, tu la feras. » Et Balaam se leva le matin et sella son âme et s'en alla avec les seigneurs de Moab. Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour s'opposer à lui. Et il était monté sur son ânesse, et ses deux jeunes hommes étaient avec lui. Et l'ânesse vit l'ange de l'Éternel se tenant dans le chemin, son épée nue dans sa main, et l'ânesse se détourna du chemin et s'en alla dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour la faire retourner dans le chemin. Alors on a donc le second épisode où c'est l'ange de l'Éternel se tient dans le chemin creux dans les vignes, verset 24. Verset 26, l'ange de l'Éternel passe plus loin, se tient dans un lieu étroit où il n'y avait point de chemin pour se détourner, à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se coucha sous Balaam, et la colère de Balaam s'embrasa, et il frappa l'ânesse avec le bâton. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait, que tu m'aies frappé ces trois fois ?» Et puis on a l'échange de discussion avec l'ânesse. Et verset 31, et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans sa main. Et il s'inclina et se prosterna sur sa face. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces trois fois ? Voici, moi, je suis sorti pour m'opposer à toi, car ton chemin est pervers devant moi. » Et l'ânesse m'a vu et s'est détournée devant moi ces trois fois. Si elle ne se serait pas détournée de devant moi, je t'aurais maintenant tué, et elle, je l'aurais laissée en vie. » Et Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé à ma rencontre dans le chemin. Et maintenant, si cela est mauvais à tes yeux, je m'en retournerai. » Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec les hommes, mais seulement tu ne diras que la parole que je te dirai. » Nous verrons s'il faut lire encore dans la suite. Alors, on a le récit sur le serpent d'airain que nous avons lu au nombre 21. Je ne parlerai pas sur la question de l'appréciation faite de la manne qui était comme dont les fils d'Israël disaient que leur âme était dégoûtée, mais simplement cet épisode où les serpents brûlants sont envoyés Et puis la délivrance vient du serpent d'airain qu'il suffisait de regarder, qui était sur une perche dressée par Moïse. Alors on se rappelle bien que ce récit est rapporté en Jean 3 par le Seigneur lui-même comme étant une annonce du Seigneur mis en croix. C'est le Jean 3 verset 14, c'est ainsi comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Mais c'était élevé, c'est pas élevé au ciel, c'est élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce qui est étonnant dans ce passage et dans l'utilisation que le Seigneur en fait, c'est que le Seigneur dit cela en Jean 3, au début de son évangile, pour parler du besoin de la nouvelle naissance. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est le sujet de l'entretien qu'il a eu avec Nicodème. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que, en fait, ce serpent d'airain, en nombre 21, il est presque à la fin du voyage. Et le Seigneur le présente comme le début. Et alors, le début du voyage pour les fils d'Israël, c'est la mer Rouge, c'est la délivrance d'Égypte, c'est la destruction des ennemis et le salut qui vient à ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que le Seigneur présente comme point de départ ce serpent d'airain, alors que dans les types de l'ancien du voyage des fils d'Israël dans le désert, il est à la fin? Alors, je pense qu'il y a là justement une instruction, une manière d'enseigner de la parole de Dieu qui est tout à fait remarquable. C'est au fond le passage de la mer Rouge et puis le regard vers le serpent d'airain, c'est tous les deux une image de la délivrance du péché que le pécheur est sauvé par le sang de Christ. C'était la délivrance d'Égypte à la Pâque en Exode 12 à 15, où il y a le sang qui est mis sur les poteaux et les linteaux des portes, et à cause de ça, les fils d'Israël sont épargnés de l'ange destructeur. L'image du sang du Seigneur qui nous sauve, qui nous lave et qui nous donne la délivrance complète avec la traversée de la mer Rouge et les fils d'Israël détruits. Mais au fond, c'est ce que Dieu a fait au commencement. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut encore ce serpent d'airain à la fin? Mais alors, c'est instructif parce que c'est justement là où on voit la différence entre la position du croyant et puis sa pratique. Ça veut dire que quant à son état, il était pécheur, il est sauvé par le sang de Christ, et il est lavé, il est délivré, mais il faut toute la traversée du désert pour se rendre compte que la vieille nature est encore là. Nous n'avons pas, dans les chapitres intermédiaires entre le départ du fils d'Israël dans leur cheminement au chapitre 10 jusqu'à ce chapitre 20 et 20 et même 21, on a des murmures après murmures, protestations, contestations, rébellions. Disons qu'on a tout ce chemin du livre des Nombres sur lequel je ne parlerai pas aujourd'hui et qui est tout à fait remarquable à la fois par la persistance des manifestations du mauvais cœur chez Israël et par la patience de Dieu qui agit des fois d'une manière, des fois d'une autre. Il agit dans une mesure en gouvernement sévère, dans une mesure en patience, dans une mesure en grâce en établissant la sacrificature, la verge d'Aaron qui a bourgeonné, etc. Etc. Mais après tout ça, eh bien, il y a encore protestation des fils d'Israël qui amène cette fois-ci une réponse sévère. Alors cette fois-ci, il n'y a pas eu de patience, il n'y a pas eu de support, il n'y a pas eu de sacrificature qui est intervenue. C'est direct les serpents brûlants et s'il meurt quelqu'un, il meurt. Et il est même dit qu'il y a un grand peuple qui est mort. Et alors c'est quelque chose donc qui est une image instructive pour nous. C'est de voir que malgré que nous soyons, pour certains d'entre nous, très avancés dans la course chrétienne, eh bien, il y a encore la vieille nature, il y a encore les mauvaises manifestations. Et alors, le seul remède, eh bien, c'est le serpent des reins. Le Seigneur, c'est le remède qui a été placé au début, pour le Seigneur le donne, Jean 3. Le Seigneur en croix qui est source de la nouvelle naissance. Et alors on dira, mais la nouvelle naissance pour les fils d'Israël en type, elle a déjà eu lieu, elle a eu lieu à la mer Rouge. Oui, elle a eu lieu en type, mais justement, il faut se l'approprier, comme on a demandé. Se l'approprier, et puis c'est la différence entre la position et la pratique. Et les fils d'Israël ont bien été mis dans cette position de sauver de l'Égypte, sauver de l'ange destructeur, sauver des Égyptiens, mais il faut effectivement une appropriation personnelle, et pas seulement au début, mais tout le long de la vie, et même à la fin de la course, encore cette appropriation où on regarde au Seigneur et on a la délivrance. Alors, ce qui est d'autant plus frappant, c'est que dans ce chapitre, alors je n'ai presque pas lu le reste du chapitre, mais justement, on a dans les versets 16 et 17, on a l'eau de rafraîchissement qui est fournie. On a le cantique qui est chanté. On a ensuite les victoires sur des ennemis. Et c'est deux victoires de Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan. Il en est parlé à plusieurs reprises dans la suite de l'Ancien Testament comme étant les victoires exemplaires sur des ennemis extraordinairement puissants. On se rappelle que Og, roi de Bazan, il nous est donné c'était un géant et il nous est donné la dimension de son lit qui était extraordinaire. Il avait, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est plus de 4 mètres de long. C'était un vrai géant et la victoire a pourtant été totale. Et alors c'est cela qui est frappant dans ce chapitre 21, c'est ce regard simple vers le Seigneur et une victoire et ensuite des cantiques, la paix et des victoires totales sur des ennemis extrêmement puissants. Et cela, c'est pas tout, on n'est pas encore à Jéricho et à traverser du Jourdain, mais on en est proche, puisque c'est au chapitre 22, verset 1, il est bien dit qu'ils campèrent de l'autre côté du Jourdain de Jéricho. Donc, ils en étaient presque arrivés. Alors, il faut bien se retenir cette pensée de la pratique et du regard vers le Seigneur qu'il faut conserver tout le long de la vie. Et c'est notre, si on est, on étudie, on regarde bien des fois notre position comme chrétienne, comme chrétien, eh bien il faut garder ça dans nos cœurs et dans nos âmes, et conserver dans nos cœurs ce que le Seigneur a fait, et que notre pratique corresponde, et qu'elle corresponde tout le long du désert, jusqu'au bout. Alors, ensuite, j'ai lu tout ce début du chapitre 22, avec cet épisode de Balaam. Peut-être que certains se demandent, mais ça n'a rien à voir avec le récit précédent. Mais dans toutes ces choses, et dans toute la parole de Dieu, et dans le livre des Nombres en particulier, l'ordre qui est donné dans des choses est tout à fait inspiré, et c'est pas n'importe quoi. Les choses sont soigneusement mises en ordre. Alors cet épisode de Balaam a d'autant plus de la pertinence pour nous que on sait qu'il en est parlé et dans la deuxième épître de Pierre à propos des temps fâcheux de la fin, et dans l'épître de Jude dans le même contexte. Et donc là, on voit quelque chose de complètement nouveau. On avait vu dans le Il y avait eu dans le livre des Nombres des ennemis, il y avait eu quelques combats, il y avait eu des sujets de murmures, des manque d'eau, manque de nourriture, manque de viande, et puis les protestations, les contestations internes avec l'affaire de Corée, il y avait toutes ces choses-là. Mais là, on a quelque chose de complètement nouveau. C'est que comme l'ennemi a échoué dans ces deux ennemis puissants de Sion, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, ces deux grands obstacles que l'ennemi voulait pour empêcher les fils d'Israël d'arriver, il y a cette affaire de Balaam. Alors, qu'est-ce que c'est cette affaire de Balaam ? Bien, c'est l'usage, l'intervention de moyens occultes, de moyens de puissance spirituelle de méchanceté, comme il est dit dans Éphésiens 6. Alors, c'est quelque chose qui est aussi très instructif. Il y a des ennemis, je dirais, visibles, dont on se rend bien compte qu'ils sont ennemis à l'évidence, mais voilà quelque chose qui se fait par en dessous, par derrière, qui n'est pas visible, et des puissances qui sont très puissantes, puisque Balak est mené et peut affirmer au verset 6, je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Donc on avait des puissances spirituelles de méchanceté qui sont des réalités, c'est pas du bidon comme on dit, c'est pas de la blague, c'est du vrai de vrai. Et alors c'est impressionnant de voir que quand les moyens que l'ennemi peut déchaîner contre le peuple de Dieu. Et alors ce moyen-là est d'autant plus difficile que le peuple n'est même pas au courant, que le peuple n'a pas de moyens pour contrer ces attaques, alors le peuple n'avait pas de quoi être effrayé à ce moment-là, parce qu'il n'était pas au courant. Mais quand on lit le récit, on se rend compte que c'est d'une gravité extrême. Et puis, une gravité extrême. Et puis, ce Balaam est un... Alors, c'est un peu... Peut-être que plusieurs ont lu déjà ce récit, et peut-être que certains, et c'est arrivé à beaucoup, se sont dit, mais au fond, c'est peut-être quand même un prophète de l'Éternel, il a eu des fautes, mais il a quand même fait des belles prophéties, alors c'est quand même quelqu'un, et pourtant, il y a quand même des... On a vu dans le récit des choses qui vont pas, et puis l'apôtre Pierre et l'apôtre Jude, tous les deux, relatent que c'est un homme pervers. Alors comment ça se fait? Mais c'est juste, donc il faut dire dès le début et très clairement pour la compréhension du récit que c'est un homme pervers qui n'est absolument pas prophète de l'Éternel et qui est un agent de puissance occulte, un agent du diable, et sans réserve. Mais alors, c'est justement qu'on voit que c'est d'une subtilité, une subtilité en un sens terrible, parce que qu'est-ce qu'il répond ? Il répond à Balak, il dit, c'est au verset 8, « Passez ici la nuit, je vous rapporterai la parole selon que l'Éternel m'aura parlé. » Alors, il prétend, voilà, dans le monde et dans le monde actuel, et pas seulement en Afrique, mais même dans nos pays, il y a des gens qui prétendent être prophètes, et prétendent être parlé au nom de l'Éternel, et tout en alors que c'est des menteurs. Mais alors on dira, mais il n'est pas menteur puisque l'Éternel est venu justement lui parler. Alors c'est là où on voit qu'il faut bien comprendre, à la fois il faut bien comprendre ce récit, mais à la fois c'est important pour comprendre comment l'ennemi agit et comment Dieu protège les siens. Parce que c'est donc, on connaît, je n'ai pas lu jusqu'à la fin du chapitre 24, mais on sait que c'est donc, ça se termine par une victoire complète de l'Éternel contre Balaam et pour le peuple de Dieu. Alors, comment ça se fait? Alors, en fait, on voit que pour comprendre ce récit, il faut voir les détails. Parce que la parole de Dieu, c'est un des particularités, un des avantages de la parole de Dieu. Elle nous donne exactement les points clés, les points importants pour comprendre les choses. Alors, les envoyés de Balak passent la nuit chez Balaam, et puis normalement, dans ces prophètes agissant par des puissances occultes, normalement ils évoquent ou invoquent les esprits pour les faire venir et pour leur parler. Et là, on a, verset 9, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes qui sont chez toi? C'est pas, et Balaam n'a pas eu le temps ou la possibilité d'invoquer ou d'évoquer n'importe quel esprit qui existe. C'est l'Éternel, Dieu, qui est venu, qui s'est imposé et qui lui a parlé. Alors on voit aussi, il lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez soi? C'est une façon de parler de Dieu, c'est là on la retrouve, c'est comme quand Adam a péché et Dieu vient lui dire, mais où es-tu? Et puis qu'as-tu fait? Voilà, c'est Dieu qui pose des questions toutes courtes, mais qui sont en plein au cœur du problème. Alors c'est ça la question, qui sont ces gens que tu as chez toi? Des gens qui sont en fait des gens qui veulent nuire et détruire le peuple de Dieu. Alors Balak lui donne toute une explication, verset 10, et bien Balak a envoyé, il y a ce peuple, Balak a voulu maudire, mais tout ça l'Éternel le savait, il n'y avait pas besoin de lui expliquer, mais c'est très significatif de Balaam qui a l'habitude de discuter avec des esprits mauvais et qui s'est pas rendu compte que c'était l'Éternel et que l'Éternel c'était pas comme les autres esprits auxquels il avait affaire. Cette interprétation que je donne, elle est confirmée totalement parce que je devance un peu le sujet. C'est dans la deuxième, au chapitre 23, verset 15, il y a Balak qui dit à Balaam, tiens-toi ici auprès de ton offrande, et moi j'irai à la rencontre là. Puis il lui dit pas à la rencontre de quoi. C'est-à-dire, en fait, il avait l'habitude d'aller à la rencontre des démons, et puis, en fait, c'est l'Éternel qui vient à sa rencontre. Et on a alors, et au chapitre 24, verset 1, il est dit, Balaam n'alla pas comme d'autres fois à la rencontre des enchantements. Alors on voit ce conflit de puissance spirituelle qui est extraordinaire, où on voit un faux prophète qui manœuvre pour essayer de se gagner des esprits mauvais, des puissances spirituelles, et Dieu qui vient et qui impose sa volonté et qui défend les siens de manière absolue. Disons que de ce côté-là, c'est extrêmement encourageant. Et alors, Dieu dit à Balaam, donc c'est le verset 12, réponse très claire, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. » Quelle réponse transmet Balaam au seigneur de Balak? Il leur dit, verset 13, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et c'est tout. Il tronque ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, « Ce peuple, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. » Et ça, Balaam se garde bien de le dire au seigneur de Balak. Et cela est d'autant plus, c'est pas une simple omission, parce que la deuxième intervention, quand les seigneurs plus puissants reviennent, et au verset 19, « Maintenant, je vous prie, demeurez ici, je saurai ce que l'Éternel aura de plus à me dire. » Alors, c'est là où on voit qu'il est malhonnête complètement, parce qu'il savait très bien qu'il y avait quelque chose de plus, puisque l'Éternel l'avait déjà dit. Mais ce qui était de plus, il s'était bien gardé de le dire. Il ne voulait pas le dire, parce que ça renversait tout le projet. L'Éternel avait dit, tu ne maudiras pas le peuple car il est béni. Et eux, ils voulaient absolument maudire. Et alors, en réinsistant que, et en disant cette parole, je saurai ce que l'Éternel aura de plus à me dire, à la fois il est malhonnête, à la fois au fond il trompe ces seigneurs de Balak qui croient qu'il y a quelque chose de plus, et que ce qui est de plus, eh bien, Balaam le sait, mais il ne l'a pas dit. Et puis alors, on dira, et peut-être que certains diront, oui, mais Balaam, quand même, il est pieux, puisqu'il dit, quand, verset 18, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser le commandement de l'Éternel, mon Dieu, pour faire une chose petite ou grande. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset? Ça veut simplement dire qu'il savait que Dieu était plus puissant, qu'il était au-dessus et qu'il y avait une force irrésistible auquel il ne pouvait pas faire face. Mais il n'y a pas un brin dans cette expression du verset 18, il n'y a pas un brin de piété et de crainte de Dieu. C'est uniquement quelqu'un qui est contraint de dire. Mais il retourne, mais cette contrainte que lui ne peut pas surmonter, il la retourne en se donnant du crédit, en se donnant de la valeur. Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser le commandement de l'Éternel. Il fait une apparence de piété, une apparence de piété qui justifie. Mais c'est intéressant et important de comprendre ces choses pour voir à quel degré, à la fois le degré de perversité de Balaam, mais je répète, ce Balaam, c'est et Pierre et Jude qui nous en parlent, et ça nous avertit sur les dangers et la perversité des faux prophètes. Et combien, et alors on dira, oui, mais alors comment on peut faire pour échapper à tout ça? Mais ce qu'il faut faire, c'est s'en tenir simplement à la parole de Dieu, ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu avait dit était suffisant. Il avait dit, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. Il faut, ce qui est à retenir de cette affaire, c'est que quand Dieu a parlé dans sa parole, ben, on retient tout ce qu'il a dit, on ne tronque pas et on tient compte de tout. Et alors, ce point-là explique la suite, parce que certainement que plusieurs d'entre nous ont été surpris et décontenancés de la manière dont Dieu agit ensuite. Parce que, surprenant, donc verset 20, Dieu dit, c'est la deuxième fois, si ces hommes sont venus, va avec eux. Comment ça se fait que la première fois il a dit n'y va pas, et la deuxième fois il dit vas-y? Et puis, pire que ça, quand la deuxième fois l'Éternel a dit vas-y, Balaam se leva et y va, verset 22, la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait. Alors peut-être que certes, plusieurs d'entre nous ont dit, mais moi je ne comprends pas ce récit, c'est contradictoire. Mais en fait, c'est pas du tout contradictoire. C'est au contraire extrêmement instructif de la manière dont Dieu agit. Pourquoi Dieu a commencé à lui, enfin, pourquoi Dieu la deuxième fois a dit à Balaam, si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, alors qu'il avait dit le contraire? Est-ce que Dieu dit, pourtant on a ces, dans d'autres passages, je crois que c'est Romains 11, Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir, donc Dieu est immuable, Dieu ne change pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on sait tous ces versets, et alors on dira, ben alors, ici, Dieu, il a changé d'avis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand quelqu'un est obstiné, veut absolument faire sa propre volonté, ben, il arrive un moment où Dieu dit, tu veux la faire? Eh bien, fais-la, t'as qu'à y aller, vas-y. Alors, Dieu a donné sa parole, il donne des indications, il donne des directions, et il faut écouter. Mais quand on s'obstine, alors là, Alors, on dira, oui, mais Dieu, il va arrêter. Des fois, il arrête, et puis des fois, c'est le contraire. Là, il n'arrête pas. Il dit, ben vas-y. Mais alors, est-ce qu'il lui donne toute liberté? Alors, c'est non, justement. C'est pour ça, le verset 22. Balaam a accepté d'aller la deuxième fois. Mais il n'est pas allé en disant, bon, cette fois, je vais quand même, on va voir ce qui va arriver. Non, il avait son idée perverse d'arriver d'une manière ou d'une autre à contourner la parole de Dieu, à contourner la volonté de Dieu et à arriver à son but qui était de maudire le peuple. Au passage, quand on lit l'apôtre Pierre et l'apôtre Jude, ils donnent une autre motivation, ils donnent une motivation d'argent. Ça veut dire que, en fait, Balak avait. C'est que Balaam cherchait à avoir de l'argent et plus d'argent, et c'était ça. Ça. Mais le chapitre des Nombres, ces chapitres-là que nous lisons, ils ne soulignent pas ce côté de cupidité, de désir d'avoir de l'argent de Balaam. Il souligne cette obstination à faire sa propre volonté contre Dieu et contre la bénédiction du peuple. Et alors c'est pour cela qu'après il y a cet épisode à la fois bien connu de l'ânesse de Balaam. Alors pourquoi il y a cet épisode de l'ânesse? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ce miracle? Mais c'est tout simple, c'était une façon de dire à Balaam, mais toi t'es plus bête que l'ânesse. L'ânesse, elle est plus intelligente que toi. Et cet animal, l'ânesse, comme tous les animaux, n'ont pas l'intelligence de comprendre la parole, ni de comprendre la parole de Dieu. Et en tout cas, ils en ont l'incapacité de parler. Et Dieu lui montre à Balaam son bas état. Alors, est-ce que Balaam a écouté? Est-ce qu'il a tenu compte? Mais quand l'ange de l'Éternel l'ange de l'Éternel lui a bien dit, le verset 32 et 33, ce qu'il en était. Il lui dit, verset 32, ton chemin est pervers devant moi. Verset 33, si l'ânesse ne s'était pas détournée, ben moi je t'aurais tué. Et donc il lui dit, très sans ambiguïté, qu'est-ce que répond Balaam? Verset 34, ah mais j'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi. Ça montre une chose, c'est que il dit pas du tout j'ai péché de pas avoir tenu compte de la parole de Dieu. Il dit pas j'ai péché parce que je me suis opposé à la volonté de Dieu. Pas du tout. Ce verset 34 montre qu'il n'y a pas la moindre repentance. Alors on dirait ben puisque l'ange a arrêté Balaam avec son ânesse, ben, c'est fini, il peut pas aller de... Et alors, justement, on a de nouveau une contradiction apparente du verset 35 qui dit, l'ange de l'Éternel dit à Balaam, ben, va avec les hommes, mais seulement tu ne diras que la parole que je te dirai. Alors, c'est disons que Dieu annonce qu'il lui imposera les prophéties. Balaam va dire des prophéties très belles, des prophéties remarquables, mais en fait, c'est à contre-cœur qu'il les a dit, il ne pouvait pas faire autrement, Dieu était plus fort. Alors, pour nous, c'est un encouragement très fort de voir que Dieu prend le parti de son peuple, mais c'est un un avertissement solennel de ceux qui contre ceux, un avertissement solennel pour ceux qui s'obstineraient à faire leur propre volonté contre la parole de l'Éternel. Alors, nous n'avons, on leur est avancé, nous n'avons pas le temps de lire tout ce qui est arrivé ensuite. Je donnerai juste une esquisse de ce qui est arrivé. Donc, on a quatre. D'abord, Balaam est arrivé. Et verset 40, Balak a sacrifié du gros, du menu bétail. Ils ont fait plein de sacrifices. Alors, ces premiers sacrifices sont avant que Balaam arrive. Et puis ensuite, au début du chapitre 23, et puis après il y aura pareil, ils refont des sacrifices, mais au moment où il s'agit de faire les prophéties. Je dis prophétie, la version Darby traduit discours sentencieux. Mais c'est. Elle n'a pas utilisé le mot prophétie parce que c'est un faux prophète. Et bon, alors, pourquoi ces sacrifices? Alors, on voit, ces sacrifices sont aussi très impressionnants parce que on voit des sacrifices. Donc, Balaam, c'est un homme pervers. Balak, c'est un ennemi déclaré du peuple de Dieu, ils font des sacrifices. Qu'est-ce que valent ces sacrifices? Rien du tout. Il faut être clair et net là-dessus. Mais on voit des pratiques religieuses qui vont très loin. Il y a sept autels, il y a sept taureaux, il y a sept béliers. Ils essayent d'avoir des formes, d'avoir le maximum de formes qui soient... qui pourrait être acceptable. Mais de nouveau, on a l'Éternel vient à sa rencontre. Balaam n'a pas eu le temps d'invoquer quoi que ce soit. C'est Dieu qui a imposé sa parole. Alors, la première prophétie, on a cela au chapitre 23, verset 9. C'est un peuple qui habitera seul. Il ne sera pas compté parmi les nations. C'est cette pensée. Dieu s'est mis à part un peuple pour lui-même. Je regarde pas le détail de la prophétie, mais le sens général, c'est ça. Dieu a un peuple. Il s'est gardé pour lui-même. Et puis, il y a déjà cette connaissance, fin du verset 10. Connaissance de la bénédiction finale du peuple de Dieu, que mon âme meure de la mort des hommes droits, que ma fin soit comme la leur. Et puis, deuxième prophétie, alors, c'est chapitre 23, verset 20, j'ai reçu mission de bénir, il a béni, je ne le révoquerai pas. Et cette phrase extrêmement surprenante, il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu d'injustice en Israël. Alors, on dira, avec tout ce que le peuple a commis pendant tout le temps du désert et toutes ces rébellions, comment c'est possible que l'Éternel fasse dire une déclaration pareille? Mais c'est là où on voit, lavé dans le sang de l'agneau, on voit la portée de ça. Des pécheurs qui étaient pécheurs et qui étaient inexcusables, et ils sont blanchis totalement. Totalement. Et c'était la situation. Mais là, c'est Dieu regarde l'état du peuple tel que lui l'a fait. Il ne dit pas leur pratique. Leur pratique, c'est une autre affaire. Et alors, il y a aussi. Fin du verset 21, il est parlé d'un chant de triomphe royal. On voit un peuple victorieux. Il a comme verset 22, il a comme la force des buffles. Et puis verset 23, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob ni de divination contre Israël. Ça, c'est un verset très important. C'est les les puissances spirituelles de méchanceté contre les croyants s'arrêtent. Ça échoue, Dieu les protège. C'est Colossiens. On a ça en Colossiens 1, verset 13, qui nous dit « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres ». Alors ça, c'est une déclaration dont il faut être persuadé, qu'il faut s'approprier, et qui est extrêmement encourageante. Et puis alors on a cette phrase que peut-être énigmatique ou que certains ont de la peine à comprendre, selon ce temps, il sera dit qu'est-ce que Dieu a fait. Alors d'abord c'est selon ce temps, eh bien, alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que en rapport avec ce temps-là, ce qui compte, c'est pas ce que le peuple a fait, c'est pas ce que l'ennemi a fait, c'est ce que Dieu a fait. Alors ça, c'est aussi très très encourageant, parce qu'on voit que ce qui compte, c'est ce que Dieu fait. Et on est dans un temps bouleversé, on est dans un temps où tout est renversé, il y a la guerre, notre sœur parmi nous en souffre et tant d'autres. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, le fait, quand il est dit il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, c'est aussi une façon de dire que tous les enchantements ou les manœuvres occultes de Balaam, elles servent à rien du tout. C'est ça aussi que ça veut dire. Alors, troisième prophétie, elle, ça va plus loin, c'est pas seulement que Dieu a blanchi, mais comment certains ont pu le considérer hier, c'est la position en Christ, que tes tentes sont belles, ô Jacob, tes demeures, ô Israël, c'est la position que Dieu nous donne, position excellente. Et c'est le... Je passe rapidement, c'est Dieu nous voit en Christ, c'est la bénédiction complète, on est associé à lui, c'est pas seulement qu'on est blanchi et que nos péchés sont ôtés, c'est beaucoup plus, on est dans un stade plus avancé. Alors le résultat, on voit, c'est chapitre 24, verset 10, Balak se met en colère, il dit bon, mais puisque c'est comme ça, verset 11, eh bien, tu n'auras rien du tout de la récompense que je voulais te donner. Et puis, voilà que, bon, on dirait, ben, l'affaire est finie, sauf que Dieu impose une quatrième prophétie qui n'a pas été demandée par Balak, celle-là. Alors, je résume cette prophétie. Quand on rentre, ce qu'elle veut dire, c'est que tous les ennemis du peuple de Dieu, les uns après les autres, sont détruits, sont voués à l'échec, et finalement, ils vont tous à la destruction. On a ça, chapitre 24, verset 24. Alors, nous sommes dans un monde qui est complètement sans dessus-dessous, qui a des côtés extrêmement inquiétants, et puis alors Dieu n'intervient pas tout de suite, il a ses voies, il sait comment il veut que les choses se passent, mais la fin, il ne faut pas croire que l'ennemi va triompher en aucune manière. Alors, est-ce que l'affaire reste là? Alors, d'un côté, oui, parce que le dernier verset du chapitre 24, c'est « Balaam se leva, s'en alla en son lieu, et Balak aussi, ils sont partis chacun de leur côté. » Sauf que on a le chapitre 25, et le chapitre 25, qu'il faut comprendre, pour le comprendre, le chapitre 25, il faut l'interprétation du chapitre 31. Alors, je ne rentre pas dans toutes ces questions-là, mais en fait, c'est il y a c'est Balaam qui était suffisamment intelligent et pervers pour suggérer à Balak que comme on n'avait pas pu nuire au peuple de Dieu par des moyens occultes, il faut lui nuire par la corruption morale intérieure. Et alors il pousse à la corruption morale par des choses toutes gentilles. C'est des filles qui invitent les garçons à des festins et à manger ensemble. Alors on dira, c'est faire la paix avec l'ennemi, se réjouir avec l'ennemi. Ils font des sacrifices, mais 25 verset 2, c'est des sacrifices à leur Dieu, et ils se prosternent devant leurs idoles. Et en fait, il y a la corruption morale liée à l'idolâtrie. On laisse de côté le vrai Dieu et on s'abandonne à la corruption morale. Et ça, en fait, c'était sous l'incitation de Balaam. C'est le chapitre 31 qui nous le dit. Le chapitre 27 ne le dit pas. Alors, il y a la délivrance finale quand même. C'est pas l'ennemi qui... Alors on dira, l'ennemi, il a tout gagné, puisque finalement, c'est lui qui a gagné. Alors, le chapitre 25 montre que non, il y a Phiné, fils d'Éléazar, qui intervient, et il y a une victoire quand même finale, une délivrance, mais enfin, il y a des dégâts entre-temps. Et alors on voit l'ennemi essayant des puissances de spirituelle méchanceté, ça c'est l'échec complet. Et là, il y a cet avertissement très solennel de la corruption morale et de l'idolâtrie. Et ça nous guette aussi, et ça guettera les croyants de tous les temps et jusqu'au bout. Et ça, faut craindre. Alors, au fond, dans la première partie, on a vu qu'il fallait tenir à la parole de Dieu, mais non tronquée et complètement. Et puis là, faut tenir aussi à la parole de Dieu pour ne pas dévier vers l'idolâtrie et vers la corruption morale ou fornication. Et le chemin, disons, dans un cas comme dans l'autre, on voit bien qu'il s'agit de suivre la parole de Dieu et de suivre la volonté de Dieu, et c'est de ce côté-là qu'il y a seulement la bénédiction.